Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Une nouvelle théorie émerge. Un texte de Pierre Selerier de l'agence France-Presse paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Une nouvelle théorie avance que notre planète a pu capturer le précieux élément dans un bain de vapeur peu après la formation du système solaire, selon une étude publiée mardi dans Astronomy and Astrophysics. Selon la théorie dominante, l'eau serait arrivée sur Terre par l'intermédiaire d'astéroïdes principalement et de comètes provenant de l'extérieur du système solaire dans les 100 premiers millions d'années. Un bombardement ayant tout du jeu de billard gravitationnel, décrit à l'AFP l'astrophysicien Quentin Kral, premier auteur de l'étude, qui propose pour sa part un procédé un peu plus naturel et un peu plus simple à mettre en place. Moins aléatoire, donc, et surtout applicable à d'autres planètes rocheuses du système solaire, comme Mars ou Mercure, dont on sait qu'elles contiennent de l'eau, tout comme la Lune. Tout part de la ceinture d'astéroïdes, un anneau de petits corps célestes situé entre Mars et Jupiter, qui était beaucoup plus massif à l'époque de la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. On sait qu'initialement les astéroïdes étaient glacés, explique le chercheur au laboratoire LESIA de l'Observatoire de Paris-Meudon, PSL. Ces glaces, on ne les voit plus trop aujourd'hui, sauf sur Cérès, le plus massif des astéroïdes. Mais on en détecte les traces sur d'autres avec la présence de minéraux hydratés, comme ceux identifiés dans les échantillons de l'astéroïde Ryugu, rapportés récemment par une mission japonaise. L'idée de l'équipe du LESIA avec un astronome de l'Institut de physique du globe de Paris, c'est que la Terre a bien récupéré l'eau des astéroïdes, mais sans que ces derniers la lui apportent directement. La vapeur d'eau vit sa vie d'eau. Dans ce scénario, le Soleil vient de se former et chauffe la ceinture d'astéroïdes avec un pic à environ 25 millions d'années. Ce chauffage sublime les glaces d'eau et forme alors un disque de vapeur d'eau au niveau de la ceinture des astéroïdes, décrit Quentin Kral. De là, ce disque s'étale dans le système solaire jusqu'à la Terre, qui va capter progressivement cette ressource au fur et à mesure qu'elle se refroidit. Une fois accrétée, capter la matière sous l'effet de la gravitation, sur la planète, cette vapeur d'eau vit sa vie d'eau et s'y retrouve sous forme liquide. Le modèle élaboré par Quentin Kral et ses collègues fonctionne aussi bien avec une ceinture d'astéroïdes massive, comme il suppose que l'a été celle de notre système, qu'avec une ceinture plus mince, mais sur une plus longue période. C'est la première fois qu'une telle hypothèse est avancée. Mais elle ne sort pas de nulle part, précise l'astrophysicien. Elle doit beaucoup aux observations du radiotélescope ALMA, grand spécialiste de la détection de nuages de gaz et de poussière dans l'univers. Depuis 10 ans, on sait qu'il y a des disques de gaz de carbone et d'oxygène dans des ceintures de planétésimaux, autrement dit d'astéroïdes et mini-planètes, de systèmes extrasolaires. Avant cela, on ne voyait que de la poussière, là où maintenant on constate la présence de gaz, ou encore de la glace d'eau dans la ceinture d'astéroïdes de HD 69830, un système solaire doté d'au moins 3 planètes. Alors, comment tester à fond la théorie, questionne Quentin Kral, en allant chercher des systèmes un peu plus jeunes qui ont encore leur disque de gaz d'eau? L'équipe du LESIA a obtenu du temps d'observation avec ALMA sur des systèmes un peu particuliers, intéressants. Et elle en attend maintenant les résultats. C'était « Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Une nouvelle théorie émerge ». Un texte de Pierre Selerier de l'agence France Presse paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.
l'immense impact d'une minuscule défenseuse. Un texte de Simon-Olivier Lorange, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Les athlètes aux gabarits hors normes suscitent naturellement la fascination. Les très grands, évidemment, mais les très petits encore davantage. La curiosité est d'autant plus vive dans un sport de contact comme le hockey. Parlez-en à Cole Caulfield ou à Brendan Gallagher, qui ont répondu à des centaines de questions à ce sujet depuis le début de leur carrière. C'est ici qu'Amanda Boulier entre dans la discussion. À 5 pieds 1 pouce, elle est la plus petite joueuse de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF. Sur la glace, on la repère au premier coup d'œil. Même si les hockeyeuses sont naturellement moins grandes que leurs homologues masculins, la différence entre Boulier et ses coéquipières ou adversaires est frappante. Après qu'elle eut connu beaucoup de succès dans la défunte Premier Hockey Federation, on aurait pu croire que l'Américaine aurait de la difficulté à s'adapter à la LPHF, dont le jeu physique a pris par surprise le public comme les joueuses. Ça aurait toutefois été mal la connaître. Dès son arrivée dans la métropole, en mars dernier, à la suite d'une transaction avec Ottawa, Boulier est devenue un pilier au sein de la défense montréalaise. Elle a instantanément gagné la confiance du personnel d'entraîneur. En saison, ses 3 points en seulement 6 matchs lui ont valu le 3e rang chez les défenseuses du club qui avaient résolument besoin d'aide à cette position. Et elle a passé quelques 45 minutes sur la patinoire le 11 mai 2024 lors du surréel affrontement éliminatoire contre Boston qui a nécessité 3 périodes de prolongation. Elle est sans peur, a souligné l'entraîneuse chef Corrie Chevery après l'entraînement de l'équipe. C'est l'état d'esprit qui est nécessaire pour jouer dans cette ligue. Peu importe si ça va bien ou non, il faut investir des efforts sans relâche. C'est la raison pour laquelle elle a pu accumuler toute cette expérience. Car oui, à 31 ans, la native du Connecticut est aussi l'une des joueuses les plus âgées de l'équipe, surpassée seulement par Marie-Philippe Poulin. Celle qui la côtoie vante bien sûr ses qualités de hockeyeuse, à commencer par sa mobilité et sa capacité à faire circuler la rondelle. En outre, systématiquement, le mot « leadership » est prononcé. En effet, sans être un des visages les plus connus de la victoire, Boulier exerce un fort ascendant dans le vestiaire. Son impact, comprend-on, est inversement proportionnel à sa taille. Cela ne passe pas inaperçu chez ses coéquipières, mais aussi au sein de la direction. Elle a, en effet, été parmi les premières joueuses à signer une prolongation de contrat pendant l'été. « C'est un réel bonheur de l'avoir parmi nous », souligne Erin Ambrose, défenseuse de la victoire de Montréal. Elle rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas de mauvaise journée quand on est une joueuse professionnelle. Elle met beaucoup de choses en perspective. Fierté. Lorsqu'on lui rapporte ses compliments, la principale concernée souligne que cet apport au succès du groupe est sa plus grande fierté. « Je ne suis pas une superstar, mais si je peux aider les superstars à alléger l'ambiance et à avoir du plaisir, je vais le faire », a dit Boulier pendant une courte entrevue avec la presse. « Je crois qu'aider mes coéquipières à trouver de la joie dans leur quotidien, à les faire adorer encore davantage le sport qu'on pratique, c'est ce que je peux léguer de plus important ». Elle est évidemment consciente que, sur la patinoire, elle n'incarne pas la défenseuse traditionnelle, au sens que le hockey, surtout masculin, valorise. Ce n'est donc pas sa carrure qui lui permettra de gagner ses batailles devant le filet. Elle est aussi la première à savoir que sa taille peut être vue comme une faiblesse. Alors, je dois mieux utiliser mes pieds et être plus précise avec mon bâton, nuance-t-elle. J'utilise davantage mon cerveau et ma vision. Elle ne donnera pas les plus gros coups d'épaule, mais elle est toujours au bon endroit, a salué Erin Ambrose. Loin d'être un colosse elle-même, 5 pieds 5 pouces, la défenseuse étoile estime avoir beaucoup à apprendre de Boullier sur ce plan. N'allez cependant pas croire que l'Américaine recule devant le jeu physique pour autant. J'aime bien donner des mises en échec et je suis prête à en recevoir, insiste-t-elle. Mentalement, je ne me sens pas comme la plus petite. Les moqueries d'adversaires reviennent périodiquement, ce qui ne l'affecte pas le moins du monde. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas, dit-elle en riant. Du reste, Amanda Boullier est soulagée de pouvoir commencer la saison avec son équipe. Après qu'elle eut amorcé le camp d'entraînement au sein du groupe des blessés, la voilà de retour en forme. Elle a d'ailleurs disputé un match préparatoire et elle avoue s'être sentie rouillée après de longs mois sans jouer. Mais elle retrouve chaque jour davantage son rythme. Emballée par la profondeur du groupe de défenseuses, renforcée notamment par l'ajout de la jeune étoile américaine Kayla Barnes et de la vétérane suédoise Anna Gjelbin, Boullier répète à quel point elle est reconnaissante de revenir pour une deuxième saison dans l'uniforme Bourgogne. Le niveau de détail dans le coaching est incroyable, s'émeut-elle. Je sais que je vais continuer à m'améliorer dans cet environnement parce que je sais que chaque jour, je serai poussée au maximum. J'adore ça. C'était l'immense impact d'une minuscule défenseuse. Un texte de Simon-Olivier Lorange, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.
Sport d'hiver. Les conseils essentiels de prévention de votre chiro. Un texte commandité, paru le 19 novembre 2024 dans La Presse. Avant de sauter sur vos skis ou de ressortir vos patins, une bonne préparation est essentielle pour savourer pleinement vos sorties en plein air. Voici les conseils d'un chiropraticien pour vous permettre de profiter de vos sports préférés en toute sécurité. Pour un hiver sécuritaire, quelle que soit l'activité que vous pratiquerez cet hiver, ne partez pas sans être bien préparé. Avant de renouer avec votre sport préféré, veillez à traiter les blessures et les problèmes de santé préexistants. Assurez-vous également d'avoir un équipement adéquat et à la bonne taille afin d'adopter la posture appropriée. Pour réduire les risques de blessures, pensez toujours à vous échauffer en reproduisant les mouvements du sport pratiqué puis à vous étirer. Respectez vos limites et progresser à votre rythme en augmentant l'intensité graduellement. Surtout, veillez à faire tout au long de la saison les exercices recommandés par votre chiropraticien. Ils vous permettront de renforcer votre souplesse, votre flexibilité, votre équilibre et votre mobilité pour des sorties sportives réussies. En cas de blessure, votre chiropraticien préconisera une prise en charge rapide qui permettra d'optimiser votre rétablissement et diminuera les risques que votre problème devienne chronique. Le chiropraticien est formé pour diagnostiquer, traiter et prévenir les blessures neuromusculo-squelettiques. C'est un allié de choix pour maintenir une bonne santé globale, nous dit le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association des chiropraticiens du Québec, ACQ. Le saviez-vous? Le chiropraticien est titulaire d'un diplôme universitaire, le doctorat de premier cycle en chiropratique. Son champ de compétences lui permet de jouer un rôle de premier plan dans la prévention et le traitement d'une variété de problèmes liés au système nerveux, musculaire et squelettique. C'est un professionnel de la santé qui est habilité à poser un diagnostic chiropratique lui permettant de mettre au point un plan de soins correspondant à l'état physique, à l'âge et aux objectifs de santé du patient ou de la patiente. Les chiropraticiens sont titulaires du permis requis pour prescrire, prendre et analyser des radiographies. Ils peuvent aussi prescrire de l'imagerie médicale avancée, telle la résonance magnétique, la tomodensitométrie ou l'échographie. Hockey. Le hockey est un sport exigeant. Et les blessures dues aux impacts et aux chutes sont choses courantes lorsqu'on le pratique. Les commotions cérébrales figurent d'ailleurs parmi les plus communes. L'intervention chiropratique joue un rôle clé dans la prise en charge efficace de ce type de blessures, explique le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association des chiropraticiens du Québec, ACQ. Il poursuit en rappelant qu'en cas de nécessité, le chiropraticien pourra collaborer avec d'autres professionnels de la santé pour un suivi complet et conforme aux protocoles établis. Raquette. Accessible et peu coûteuse, la raquette est une activité sportive complète qui permet de solliciter tout le corps sans causer de stress excessif sur les articulations. Comme c'est le cas avec tous les sports d'hiver. Quelques recommandations s'imposent néanmoins pour la pratiquer de façon sécuritaire. Il est essentiel de porter attention aux conditions du sentier, les surfaces glacées et les virages trop serrés peuvent présenter un risque de chute et causer des blessures, indique le Dr Corbin. Pour les éviter, il vous recommande d'adopter une posture neutre, semblable à celle de la marche, et de vous munir de bâtons de randonnée qui assureront votre stabilité, surtout sur les terrains inclinés. Ski alpin. Vous dévalerez les pistes en famille cet hiver? Gardez à l'esprit que les risques de blessures sont généralement plus élevés lors des premières et des dernières descentes de la journée. Soit notre corps doit prendre le temps de s'adapter aux mouvements et aux pistes, soit il devient moins réactif sous l'effet de la fatigue, précise le président de l'ACQ. Il ajoute que pour pratiquer le ski alpin et la planche à neige en toute sécurité, une bonne maîtrise de l'équilibre et du transfert de poids sont essentielles et que votre chiropraticien sera en mesure de vous recommander une série d'exercices ciblés et adaptés à vos besoins et à vos objectifs. Ski de fond. Le ski de fond est un sport complet qui comporte de nombreux bienfaits sur la santé physique et cardiovasculaire. À la portée de tous, il permet de moduler l'intensité en fonction de la condition physique et des capacités de chacun. Pour éviter les blessures en début de saison, le Dr Corbin vous recommande notamment de veiller à maîtriser votre enjambée. Une amplitude trop grande, parfois combinée à une vitesse ou intensité élevée, risque d'entraîner des blessures fréquemment observées en clinique chiropratique. Lors de vos sorties, démarrez à un rythme modéré et augmentez progressivement la cadence. Il s'agit de la meilleure option pour permettre aux muscles et aux articulations de se préparer à l'effort, dit-il. C'était Sport d'hiver, les conseils essentiels de prévention de votre chiro, un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans La Presse.
Hôtel Beyrouth,
Une histoire d'immigration canadienne, un texte de Camille Langlade, paru le 2 novembre 2024 dans L'Express. À travers le récit d'une famille libanaise fuyant la guerre à la fin des années 1980 pour aller s'installer à Ottawa, la série Hôtel Beyrouth, diffusée à TFO, explore les défis et les espoirs liés à l'immigration, à l'exil et à l'intégration au Canada. Une histoire plus que jamais d'actualité. Inspirée de faits réels, la fiction Hôtel Beyrouth suit les premiers pas de la famille Haddad à Ottawa. Réalisée par les franco-ontariennes Anya Jamila et Josiane Blanc, la série met à l'honneur les deux enfants de la famille. Zeyna, une adolescente vive et sensible en quête d'identité, et Fadi, un jeune garçon curieux et plein d'énergie, qui n'en rate jamais une. Alors que les Haddad s'efforcent de trouver leur repère dans cette nouvelle vie canadienne, leur résidence devient rapidement un point de passage pour les immigrants libanais. Entre Beyrouth et Ottawa, kefta et pâté chinois, musique traditionnelle libanaise et pop nord-américaine, Hôtel Beyrouth dresse le portrait d'une immigration riche en contrastes et en émotions. La série se déroule à la fin des années 1980. Est-ce que les défis auxquels font face les nouveaux arrivants pour s'intégrer dans la société canadienne ont aujourd'hui changé? Anya Jamila. Je ne pense pas que l'immigration change tant que ça, à part le côté bureaucratique de la chose, parce que les lois ne sont pas les mêmes. Mais après, une histoire d'immigration, ça reste toujours, surtout après la guerre, une expérience déchirante pour les enfants et pour les parents. On doit quand même trouver une maison, un chez-soi. Il faut quand même trouver des écoles, se tailler une place. Il y a quand même un choc culturel. On a des accents, on n'a plus la même nourriture, on essaie de se fondre, mais on n'est pas encore prêt à être fondu. Malheureusement, j'ai plus une image d'histoire qui se répète constamment. La guerre qui se répète, même dans le même pays, les traumatismes. Mais le sujet, je tiens à le mentionner, ce n'est pas la guerre. C'est vraiment une histoire d'immigration. C'est une histoire canadienne, de néo-canadiens qui arrivent au Canada et qui vont devoir faire leur place, s'adapter et souvent se poser la question « Quand est-ce qu'on retourne? Quand est-ce qu'on retourne ?» Et au final, la plupart ne retournent pas. Il s'agit aussi d'une famille qui parle français et qui vient s'installer dans une province anglophone. À quels défis particuliers sont confrontés les immigrants francophones? Anya Jamila. La langue d'origine reste la langue affective. Quand on exprime ses émotions, souvent c'est plus facile de le faire dans la langue maternelle. Donc, ça crée quand même déjà au départ une petite cassure. Quand on est à Ottawa ou en Ontario ou en milieu minoritaire, le flux d'informations qu'on reçoit est majoritairement en anglais. Donc, il faut vraiment comme séparer son cerveau en trois. On a la langue d'origine qui est la langue affective, on a le français qui est la langue qu'on étudie à l'école, et ensuite on a l'anglais qui est tout le reste, le divertissement, les infos, les médias sociaux, etc. Le français est comme squeezé entre les deux, et c'est une langue qui doit survivre, en fait, c'est comme une survivante, qui a évidemment des accents. À qui s'adresse la série? Anya Jamila. Quand on racontait l'histoire, ça résonnait avec plein de personnes, même au sein de notre équipe. Moi, j'ai vécu quelque chose de très similaire, le trauma en moins. Mais le déracinement, il est là. L'école, la maison, les parents qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui ne savent pas s'ils vont rester, la famille qui reste derrière, le fait qu'on s'entraide entre nous, qu'on a toujours accueilli des gens dormir à la maison. Cette espèce de porte tournante, ça, c'est quelque chose qui fait écho. C'est une histoire canadienne, une histoire néo-canadienne. Ce n'est pas une histoire libanaise. On met à l'écran une communauté libanaise qu'on met à l'honneur et puis qu'on célèbre avec toute sa splendeur et toute sa richesse et toute son unicité. Mais en fin de compte, c'est cette histoire super précise et super particulière, tirée d'une histoire vraie, qui devient universelle au Canada. La série a une résonance toute particulière aujourd'hui, compte tenu des événements au Liban, mais aussi dans d'autres pays comme Haïti, où des personnes fuient la guerre en quête de refuge, notamment au Canada. Anya Jamila. En fait, je pense que ça nous donne la chair de poule tout le temps que ce ne soit pas une histoire du passé. C'est vraiment une histoire du présent, même si elle se passe dans les années 80. On a quand même traité le sujet de façon sérieuse, mais on a décidé d'en faire une comédie. Je ne voulais pas qu'on voit ces personnes comme des victimes, parce que ce sont des personnes qui sont hautes en couleur, qui ont beaucoup de personnalité, de rêves, de réparties, etc. Je voulais aussi qu'on les voit comme des gens qui feraient partie de notre vie. Parce que souvent, quand on est dans le pathos, dans l'ultra-pathos, on se dit que ça arrive aux autres, c'est pas à nous. Et je voulais vraiment qu'on les voit comme des membres de notre famille, qui nous ressemblent, avec leurs loufoqueries, avec leurs blagues, avec leurs contradictions, avec leurs faiblesses, avec leur humour. Je me disais, ils sont beaucoup plus humains comme ça. On va plus les voir comme des gens qui font partie de notre communauté que comme des étrangers. Et puis aussi, aujourd'hui, ça prend une autre dimension pour la communauté libanaise qui a besoin de souffler, qui a besoin de rire un peu, alors qu'on a envie de pleurer. À TFO, Hôtel Beyrouth est disponible depuis le 24 octobre sur la plateforme TFO au lien tfo.org/série/hôtel-beyrouth et diffusé tous les jeudis à 20h sur la chaîne télé. C'était Hôtel Beyrouth, une histoire d'immigration canadienne, un texte de Camille Langlade, paru le 2 novembre 2024 dans L'Express.